Good morning, ladies and gentlemen.
Bonjour, mesdames et messieurs. Merci pour participer à cette session. Nous allons parler de la sexualité des adolescents et de la promotion de la santé sexuelle. Je m'appelle Mary, je viens du Kenya, d'une organisation qui s'appelle l'Initiative de la jeunesse positive. Nous aidons des jeunes séropositifs et pour cette session, je vais être l'animatrice de cette session. Nous avons 3 conférenciers, je vais vous les présenter. Donc, Donald MacDonald, l'ancien président du conseil de Trinidad et Tobago. Il est également le gestionnaire des changements des comportements pour les PSI Antilles et il travaille sur les interventions pour le VIH-SIDA depuis 15 ans. Deuxième conférencier, Brooke Dick. Il travaille avec la jeunesse depuis 15 ans et actuellement il est à l'OMS. Avant cela, il était conseiller en chef de l'UNICEF à New York. Il aussi dirigeait la session de santé de la Croix-Rouge et il a été à la faculté de médecine de Londres pour les spécialistes en maladies tropicales. Il a travaillé dans le domaine du secteur pédiatrique. Le troisième conférencier, Henry Liambia, qui représente la force de la jeunesse à Toronto. Il vient de l'Ouganda et il est membre du programme de leadership, le comité du programme de leadership pour AIDS SIDA 2006. Il a travaillé dans une organisation de soutien qui s'appelle TASSO et actuellement il est assistant de recherche pour la communauté d'accès au traitement abordable contre le sida. Donc je vais passer la parole avec Salon MacDonald de Trinidad et Tobago, donc sur la compréhension de la sexualité adolescente et la compréhension des adolescents séropositifs. Salon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour participer à cette session. La raison de cette session est que nous avons toujours essayé, comme en tant que jeunes, d'avoir. Nous voulons que nos questions soient comprises. Et il faut ce matin, moi-même et mes autres conférenciers, nous essayons explorer les questions qui doivent être soulevées et qui doivent être examinées. Lorsqu'on examine la sexualité des adolescents, il faut comprendre que la sexualité est une partie visible et importante de nous-mêmes. Mais nous n'avons aucune idée que cela fonctionne et que cela existe. C'est pour ça que nous portons certains vêtements, c'est pour ça que nous nous préparons le matin, c'est pour ça que nous nous sentons à l'aise ou pas à l'aise dans les groupes, les parties, les fêtes, les relations sociales et la formation de tout cela. Nous suivons un processus. Il s'agit d'apprentissage, de désapprendre, de cacher et montrer des différents éléments que nous avons appris comme choses positives ou négatives. On a des couvertures roses ou bleues. Au fur et à mesure, nous renforçons les couleurs un petit peu. Combien dans cette salle porte une chemise rose? 5, 6. Et je sais qu'il y a plus de 6 hommes ici. Lorsque nous grandissons, on nous apprend que si les garçons tombent par terre, ils ne doivent pas pleurer, puisque ce n'est pas acceptable. Mais si une fille tombe, elle peut pleurer. Oui. On dit aux garçons, garde ta peine si ça fait mal. Oui, tu vas récupérer, t'inquiète pas, tu vas devenir un homme. En grandissant, nous les poussons. Et nous les poussons dans des directions, nous vers ce qui est plus masculin, féminin, etc. Et nous avons créé ces deux créatures étrangères. Et ces deux créatures étrangères doivent vivre ensemble. Et après, maintenant nous avons le VIH, apparaît le VIH et le sida. Et nous devons poser quelques questions. Allez, dis bonjour à vos partenaires, à vos voisins. Je m'appelle Jean-Marie, Frank, Elna, Kalai. Serrez-vous la main, peu importe le nom. Regardez derrière et faites la même chose derrière vous. C'est de l'interaction humaine, c'est avec cela que nous vivons, c'est notre vie. Bien, maintenant, si nous parlons du monde symbolique, nous disons les gens avec qui nous venons de serrer la main, nous avons une interaction intime et personnelle, et l'on a partagé des liquides, des fluides humains. C'est vrai, c'est la vérité. Maintenant, dans cette activité, un des risques du partage de fluides est de contracter le VIH. Donc, quelle que soit la méthode, ABC, nous parlons de prévention du VIH, le sexe, les relations sexuelles protégées. Nous ne savons pas si la personne est infectée ou non. Savez-vous ce qui se passe, ce qui est intéressant dans cette salle et de l'hypothèse. Vous avez tous participé à cette activité. Quel message de prévention avons pu utiliser comme message de prévention? Est-ce que la prévention du VIH va être pertinente pour vous? Nous devons examiner pour réfléchir, se débarrasser du terme prévention du VIH et parler de la prévention du sida. Il y a une compréhension critique que nous devons avoir et il y a des questions que nous devons poser. Pour avoir des messages de prévention qui discrimine les adolescents séropositifs et qui vit déjà avec le VIH. Un adolescent qui vit avec le séropositif, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Soit abstinent, utilise un préservatif, la prévention du VIH alors devient non pertinent. Nous devons parler de la prévention du sida. C'est ce qui vous permet de maintenir vos CD4, vos cellules, vos lymphocytes au-dessus d'un seuil. Malgré tout, aucun agence de santé, aucun organisme mondial a examiné aux différences dans les programmes qui sont nécessaires pour les adolescents qui vivent avec le virus. Est-ce qu'il y a une différence entre la prévention du VIH et la prévention du sida? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons formuler? Comment pouvons-nous traiter la question de cette jeune personne? Comment est-ce que nous pouvons examiner la prévention et les soins en relation avec cette jeune personne qui enseigne l'adolescent à propos de la puberté, de la séropositivité? Il y a un certain nombre de people qui vivent avec le virus. Il y a un certain nombre de ONG qui prennent soin des enfants. Voilà le problème un petit peu. Vous avez un enfant. Il a des pédiatriciens, des pédiatres qui s'occupent de lui. Voilà un adulte. Lorsque vous êtes adolescent, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui était divisé? Oui, j'aimerais avoir une réponse. Personne ne peut me donner une réponse? J'attends. J'attends que l'on... Alors, je vais continuer. L'environnement à la maison d'un adolescent qui vit avec le virus est parfois un véritable défi. C'est un problème. Disons que les deux parents sont séropositifs et vivants. Et ils gèrent déjà les situations de stigmatisation et de discrimination. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Vivre l'école primaire, éducation secondaire, quelles sont les questions à la maison par rapport à la gestion de la séropositivité? Comment les gens se sentent? Quels sont les problèmes? Quels sont les mécanismes qui existent? Si la nouvelle de votre séropositivité éclate à l'école, quels sont les mécanismes de gestion? Quelles sont les lois qui accompagnent ce problème? Où est la formation pour les prestataires de soins, les éducateurs, les conseillers, pour traiter ce genre de problème? Est-ce qu'il y a? Est-ce que ça existe? Non, il n'y a pas de formation comme ça. Quelles sont vraiment les questions qui touchent l'adolescence? L'acceptance par les pères, par exemple. N'oubliez pas que nous ne vivons pas dans un monde parfait dans lequel l'acceptance de qui que ce soit en fonction de la couleur, la texture des cheveux, bien sûr, tous les jeunes ont peur du VIH. Comment est-ce qu'on gère ces questions en tant qu'adolescent, 14 ou 15 ans d'âge? Vous êtes attiré par quelqu'un qui vous enseigne la gestion de ce type de problème? Quelles sont les questions en termes de préparation au traitement, si vous avez besoin de médicaments? Qui examine ces questions de santé, de traitement, de sexualité des adolescents? Ça n'existe pas. Nous devons poser ces questions simplement parce que nous ne sommes plus où l'on peut supposer en toute sécurité. On ne gère pas, ce n'est pas un adulte, ce n'est plus un enfant, nous ne sommes plus là. Et à moins de commencer à traiter ces questions des adolescents, nous allons nous retrouver dans une situation très compliquée. La population actuelle d'adolescents est supérieure aujourd'hui que jamais auparavant dans notre société. Il y a plus d'adolescents que jamais auparavant. Donc la préparation à la divulgation de la séropositivité. Je suis adolescent. On entend toujours tu vas grandir, tes hormones vont fonctionner, ceci, cela. Y a-t-il un manuel qui vous dit si tu es séropositif, il faut divulguer avant le premier bisou, baiser, la divulgation après le premier baiser, oui. Attends de divulguer jusqu'à ce que la relation soit un peu plus intime. Comment est-ce qu'un adolescent peut gérer ces questions? La santé sexuelle et reproductive et l'information sur la séropositivité. On entend toujours non au VIH, non au sida. Tous nos messages de prévention tournent autour de l'hypothèse que l'on travaille avec des gens séronégatifs qui ne veulent pas devenir séropositifs. Le système de santé gère des adultes, gère des enfants malades. Mais comme nous le savons, l'adolescent qui a déjà des problèmes à accéder à un système de santé convivial. Et c'est une question qui n'a jamais été traitée dans un grand nombre de nos pays. Comment pouvons-nous examiner les questions? Comment une jeune fille peut gérer ça? Elle a 15 ans, par exemple. Elle est Donc une adolescente enceinte et séropositive. Vos parents vous ont appris ce qu'il faut faire, ne pas faire. Vous êtes dans la classe, vous écoutez les commentaires de quelqu'un qui va vous parler sur les dangers du VIH et du sida. Et quelles sont les spécificités de votre situation et comment sont-elles gérées? Il faut après examiner l'aspect médical. Et peut-être, ce n'est peut-être pas un mot réel, les questions médico-sociales des adolescents qui vivent avec le VIH et le sida. Et je veux insister là-dessus, si nous n'examinons pas un petit peu les transitions, les fausses, un petit peu le passage de l'adolescence, l'enfance à l'adolescence, et ensuite à la vie adulte. Est-ce que nous supposons que cet enfant qui est séropositif ne va jamais devenir un adolescent? Et si c'est notre hypothèse, est-ce que c'est équitable? Est-ce que nous respectons les droits de cette jeune personne? Est-ce que ses droits vivent? Est-ce que nous respectons le besoin de cette jeune personne en termes de soins? Ou est-ce que nous nous plaçons simplement dans une zone de confort en se disant on n'aura pas besoin de gérer la situation parce que très probablement il ne va pas vivre très longtemps de toute façon? L'adolescence, la séropositive des adolescents existe depuis le début de l'épidémie. Saul n'y a pas. Saul, c'est pas la peine de se dire, on n'a pas besoin de réfléchir là-dessus. Le fait que personne ne veut encore intervenir et commencer à planifier ce qui va se passer. Et nous devons régler ce problème maintenant. Je vais vous laisser avec trois questions. Comment pouvons-nous promouvoir la santé et la sexualité d'un adolescent séropositif qui est né avec le virus? Comment pouvons-nous les aider à surmonter la transition? La vie d'un adolescent est turbulente. Comment nous pouvons aider ces transitions? Avec ce nouveau souci. Et quelle est l'importance de la promotion de la santé et la sexualité des adolescents qui sont nés avec le virus ou qui vivent avec lui? Merci beaucoup de votre attention. Merci Solange pour cette introspection sur la question. Je vais maintenant vous présenter le conférencier suivant, Gobé, qui va parler un petit peu un examen des preuves actuelles de ce qui fonctionne ou pas en terre pour la prévention. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs qui m'ont invité ici. Je vais parler pas tellement des jeunes séropositifs. Je pense que les profs devront travailler avec les profs qui existent, mais je veux utiliser les profs pour parler de la prévention de façon générale et avec un peu d'espoir soulever des questions à envisager dans notre travail dans ce domaine. Avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier la force de la jeunesse de Toronto pour ce beau t-shirt que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un véritable exemple de la participation des jeunes adultes. Je veux dire très sérieusement, félicitations à vous et la coalition des jeunes contre le sida. Avec ma barbe grise, mon petit ventre, j'ai participé à de nombreuses conférences sur le sida. Nous essayons toujours, nous avons toujours essayé d'aller au-delà de la jeune, faire participer les jeunes, les amener sur la scène, de générer un peu d'activité. Et ce qu'ils ont fait durant, pour cette conférence, la pré-conférence, la mobilisation, l'information, l'organisation qui existe, ils ont vraiment placé la barre beaucoup plus haut. Et Julie et Franck, dans les sessions antérieures, il a dit qu'il allait doubler le nombre pour Mexico, la conférence de Mexico, et ils auront du travail à faire pour améliorer, encore ce qui a été fait pendant cette conférence. Comme je l'ai dit, les jeunes sont tout à fait époustouflants dans cette conférence. Ça ne passait pas comme ça quand moi j'étais jeune. Continuons. Alors, j'aimerais faire de brièvement un petit peu de définir le cadre, la scène, et dire quelque chose à propos, on parle beaucoup des preuves, mais il faut être plus clair là-dessus. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de données, de preuves, et qu'est-ce que nous voulons dire par preuves et données? Je voudrais parler un petit peu des conclusions, des découvertes que nous avons faites à partir de l'examen des informations et des preuves que nous avons. Et j'aimerais conclure un petit peu, parler des défis, des conclusions, des choses, des obstacles. Nous entendons beaucoup, vous avez beaucoup entendu parler, entendu dire qu'il faut plus d'argent pour les programmes de lutte contre le VIH, le sida. Je pense que c'est bien. Je pense qu'en dépit des discussions sur le traitement, nous avons eu aussi beaucoup de débats sur la prévention. Mais bien sûr, il y a de plus en plus de concurrence pour ces ressources, et que les programmes actuels pour les jeunes sont sous-subventionnés, et même l'argent qui est disponible n'est pas vraiment bien utilisé. Nous avons un petit peu, beaucoup trop d'approches un petit peu en dilettante. En dilettante, c'est un petit peu... on dépense et on espère. C'est même si les jeunes sont au centre de l'épidémie, c'est vrai pour les épidémies, l'épidémie généralisée, les épidémies concentrées. Il y a encore des gens qui disent, est-ce qu'il faut porter de l'attention spéciale aux jeunes de... Réveillez-vous, mes enfants me diraient ça, nous devons aussi, nous avons les objectifs mondiaux bien sûr, des engagements que les gouvernements divers ont signés, CPD plus 5, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York et... Mais nous savons également qu'à partir du rapport de l'UNAIDS que les progrès ont été très lents dans la plupart de ces pays et qu'encore une fois, les gens remettent en question la chose. Est-ce qu'il faut vraiment faire du travail de prévention avec les jeunes? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Et nous devons aussi faire face au problème que les gens confondent très souvent les opinions morales avec les preuves, vraiment. Et je vais parler d'une publication. Les gens confondent souvent le manque de mise en œuvre avec le manque de preuves, de données.
Alors, on a besoin de ces preuves, on doit savoir ce qui fonctionne pour qu'on puisse ramasser des fonds et les dépenser à bon escient. Mais il faut être clair. Pourquoi les preuves et à quoi servent-elles? Ceux d'entre vous qui ont suivi les séances sur la prévention, vous savez tous qu'il y a des points de vue différents lorsqu'on parle d'évidence. Des études cliniques randomisées et contrôlées, et contrairement à ce que j'ai entendu l'autre jour dans un bar. Et toutes... Cette gamme de preuves qui existe entre le qualitatif et le quantitatif. Et deuxièmement, il faut être très clair sur ce point-ci. Est-ce qu'on a besoin du même niveau de preuves ou de données, tout dépendant de l'intervention? Et j'y reviendrai parce que c'est une question assez troublante dans cette revue que nous avons effectuée. Et troisièmement, il faut toujours se rappeler que c'est pas parce qu'il n'a pas de preuve scientifique que ça ne fonctionne pas. Mais ça veut dire qu'on a tout intérêt à obtenir ces preuves. Alors à quoi servent ces preuves? Pourquoi on en a besoin? Et j'ai l'impression que parfois, ces questions se confondent facilement. On a besoin d'une preuve du fait que les jeunes ont des besoins spécifiques et ont besoin d'une attention précise. Et on doit avoir des données sur les résultats différents. Alors, il faut diminuer les incidences de VIH et aussi pour contrôler ces comportements pour éviter la transmission et autres déterminants de protection qui sous-tendent ces comportements. Nous avons besoin de preuves de données pour des interventions précises, comme les programmes d'échange de seringues. Et on a eu une présentation excellente hier sur la réduction des risques et l'utilisation des condoms. Et aussi qu'un comportement précis va contribuer à la prévention du VIH-SIDA et qu'on sache comment intervenir auprès d'eux et comment faire cette éducation. Hier, on a parlé de la continuation de ce système de ABC et quelqu'un m'a dit il y a même ABCD. Et D, c'est « do it yourself », le faire soi-même. Et aussi des données probantes pour démontrer que l'intervention fonctionne. Mais est-ce que l'intervention est faisable? Alors, c'est l'efficacité jusqu'à pouvoir le faire. Alors, est-ce que la prévention fonctionne vraiment si on atteint seulement un tout petit groupe avec ces interventions? Ça me fait penser aux inoculations. Comment ça se fait qu'on a encore des épidémies de rougeole lorsqu'on a un vaccin pour la rougeole? Et là, ils découvrent que 5 à 10% des enfants, seulement 5 à 10% avaient été vaccinés. Bon, eh. Et parfois, même si les choses paraissent tout à fait logiques, on a besoin des données pour le démontrer. Et je dirais que beaucoup des constats de cette étude que je vais vous présenter sont des exemples de la recherche qui ne fait que confirmer le gros bon sens. Alors, merci. J'aimerais vous parler brièvement. Ça va être quand même assez rapide. Il y a des copies de la publication qui sont au kiosque ONU-SIDA. Et il existe aussi des CD-ROM où vous pouvez le télécharger des sites de l'ONU, ONU-SIDA ou le London School. Alors, tout simplement pour dire que c'est un effort de collaboration. On cherche à établir un consensus parmi les établissements de l'ONU, parce qu'on dit toujours qu'on n'aime pas jouer ensemble, alors on tente de le faire, jouer gentiment. Et ceci a demandé l'implication d'un grand nombre de chercheurs de nombreux pays venant de domaines différents. Alors, je parle au nom de tous. Alors, l'objectif de cette revue, premièrement, c'était d'éclairer les décideurs lorsqu'ils tentent d'atteindre les objectifs pour les jeunes et le VIH, ces engagements qui ont été pris il y a quelques années. Et par la suite, on voulait offrir une revue intégrale sur le détail des interventions pour prévenir la transmission du VIH dans les pays en voie de développement. Et finalement, on voulait avoir une méthodologie normalisée grâce à laquelle les interventions dans des milieux différents pouvaient être évaluées et évaluées de façon transparente. Alors, voici la publication dont je vous ai parlé. Il y a encore quelques exemplaires au kiosque et le CD-ROM qui va être beaucoup plus facile pour vous, surtout si vous voyagez, vous avez une valise. Mais il y a trois sections. Une section qui donne l'historique, une introduction, pourquoi il faut se concentrer sur les jeunes. On étudie les préventions de façon générale. Et par la suite, une autre section qui porte sur la méthodologie, les milieux, les environnements qui ont été identifiés et par la suite conclusions et recommandations. Alors, afin de tout faire ça, il fallait suivre plusieurs étapes. Premièrement, il fallait être très clair sur les résultats recherchés. Deuxièmement, il fallait choisir les milieux, les environnements précis dans lesquels l'intervention se fait auprès des jeunes et par la suite classer les interventions différentes qui sont introduites dans ces milieux, que ce soit des écoles ou des communautés. Il y a beaucoup de sortes d'interventions différentes dépendant du milieu. Il faut être capable de faire la différence entre ces différents genres. Et par la suite, on demande aux auteurs de chaque chapitre de nous donner un seuil de données ou de preuves nécessaires pour ce genre d'intervention. Si vous allez en faire une recommandation pour une diffusion et une mise en œuvre globale et complète. Alors, premièrement, on a vu quel genre de recherche existait déjà pour le genre d'intervention, et même si on en a lu pas mal, il y en avait 80 études qui ont été étudiées et incluses dans cette revue. Et d'après les données et les preuves de ces projets de recherche, nous avons classé les interventions ainsi. Alors, go, allez-y, si le seuil était complètement atteint. Prêt, si le seuil était partiellement atteint, et de continuer si ce n'était pas le cas. Alors, on me dit que je dois accélérer. Bon, en ce qui concerne le résultat, on a étudié les objectifs globaux, la prévalence, réduire la vulnérabilité et améliorer l'accès des jeunes à des interventions précises en ce qui concerne les renseignements, les informations, les aptitudes, les services. Et voici les milieux étudiés. Alors, je vous montre ça à l'écran. Donc, pour chaque milieu, chaque milieu avait une typologie. Alors, il y a des interventions dans des communautés géographiques. Alors, voici les quatre genres d'interventions que nous avons étudiées dans ce milieu-là. Des interventions qui portaient sur les jeunes précisément ou des interventions qui portaient aussi sur les jeunes mais comme faisant partie de la population générale. Et puis là, on faisait la différence entre les deux groupes. Alors, on avait quatre genres d'interventions communautaires. Alors, voici ce que je voulais dire quand on parle de classement ou de type. Et on voulait voir quel était le seuil de preuve nécessaire pour qu'on puisse dire, bon, cette intervention devrait être utilisée partout. Alors ici, j'ai répertorié les choses. Je vous donne deux exemples. Un exemple d'intervention auprès des jeunes dans les communautés et au plan de la faisabilité, les autres caractéristiques. Ça nous donne l'impression qu'il ne fallait pas avoir un seuil très élevé de preuves. Une preuve moindre était suffisante pour nous dire que ces interventions pouvaient être élargies. Ici, au contraire, voici des interventions auprès des jeunes qui sont les plus à risque. Et nous savons que ce genre d'interventions sont difficiles. Alors, ici, le seuil serait un seuil moyen. Et par la suite, il fallait un classement pour la preuve qu'on étudiait. Et voici les caractéristiques que nous étudions. Et tout ceci était basé sur Habich et Sazavictora. Alors, il y avait une hiérarchie de preuves pour pouvoir dire si la preuve elle-même était faible, forte ou moyenne. Et là, comme j'ai dit, chaque intervention était classée. Alors, c'était le go, allez-y. Alors, cessez de l'étudier, allez, vous pouvez y aller, un plan assez large. Et avec le ready, ce serait allez-y, mais avec une bonne évaluation. Et là, attention, là, on n'est pas tout à fait prêt, on a besoin de recherche et de développement. Et arrêtez ça, c'est pas du tout le genre d'intervention qu'on devrait appuyer. Alors, le genre d'intervention qui a été répertorié, et puis si on me dit que mon temps est écoulé, dans les écoules, il y avait des interventions go, allez-y, si c'était en fonction du cours dirigé par un adulte avec ou sans jeune, et s'ils avaient cette caractéristique de programme efficace, selon Doug Kirby qui a écrit ses communications pour des interventions dans le milieu scolaire dans les pays en voie de développement. Et là, c'était le développement du cursus et la mise en œuvre. Les services de santé nous avaient trouvé que on ne pouvait seulement augmenter l'utilisation des services par les jeunes si les fournisseurs des services étaient fermés et si on faisait aussi quelque chose dans les cliniques et si on rejoignait la communauté pour créer un soutien communautaire. Alors évidemment, c'était le gros bon sens, mais maintenant on a une preuve pour le soutenir. Et dans des communautés géographiques bien définies, là où on travaille directement avec les jeunes, grâce à des structures qui existent déjà, là nous sommes prêts. Évidemment, on a besoin de plus d'évaluation, mais on devrait utiliser ces interventions au sens large. Et on a besoin de plus d'évaluation parce que même si les jeunes représentent une proportion très à risque des travailleurs du sexe, des UDI, malheureusement, la documentation, les données ne sont pas là. Alors, on a besoin d'évaluation, mais on ne devrait pas s'empêcher de mettre en œuvre ce genre de programme. Et maintenant, très brièvement, je vais vous parler, identifier trois avertissements. Premièrement, aucun des auteurs pensait que c'était l'ultime réponse. Évidemment, on peut étudier la preuve de plusieurs façons. Alors, ceci n'est qu'une façon. Alors, on vous offre ça pour faire une discussion, pour pouvoir dire, écoutez, voici ce que nous pensons. Et on tente d'être transparent. Et comment nous en sommes arrivés aux conclusions? Qu'en fonction de la preuve, ça varie beaucoup. On a beaucoup de données de milieu scolaire où c'est assez facile de faire de la recherche. Mais on n'a pas beaucoup de données sur les jeunes UDI ou les jeunes travailleurs du sexe, où c'est très difficile de faire la recherche. Et très souvent, les gens qu'on tente de rejoindre dans ces groupes ne veulent pas vraiment faire une recherche, ils veulent juste continuer à vivre leur vie. Il y a un nombre de groupes ici qui ont été répertoriés qui ne sont pas mentionnés dans l'étude. Et j'aimerais souligner ce dernier groupe, le groupe de soins, appui et traitement pour les jeunes qui vivent avec le VIH-SIDA. En début d'étude, on va décider qu'on n'allait pas étudier tout ceci parce que la preuve était tellement vulnérable et fragile. Mais on a une réunion au mois de novembre pour se pencher là-dessus. Et enfin, quelques défis. Comment interpréter les résultats, les constats d'intervention avec de multiples composantes? On dit depuis 15 ans qu'il n'y a pas de solution magique, il faut faire quelque chose dans les services, dans les communautés, dans les écoles, et changer l'environnement social et quelque chose auprès des médias. Et même les gens commencent à le faire. Et maintenant qu'on commence à le faire, on a du mal à voir c'est lequel qui a le plus d'effet. Comment tenir compte du fait que tous les jeunes ne se ressemblent pas? Et nous savons qu'à un certain niveau, au niveau du programme, c'est très important. Mais à un autre niveau, si on veut pouvoir guider les décideurs et leur dire, mais oui, il ne faut pas oublier les garçons, et puis les filles, et puis les plus jeunes, les moins jeunes, les mariés, les par-mariés, vivent avec les parents. Et après ça, ils vont juste aller donner un vaccin aux tout jeunes enfants, ça devient trop compliqué. Il faut toujours tenir compte du contexte. On n'a pas beaucoup de bonnes recherches dans les pays en voie de développement, surtout des recherches avec des éléments coûteux. Et toute cette question que nous avons écartée dans cette étude parce que les recherches axées sur la donnée, c'est quelque chose de très fragile. C'est quelque chose dont on a parlé beaucoup dans les interventions structurelles dont nous avons parlé lors de cette conférence. Et aussi maintenant, ce que ça veut dire pour l'action. Nous avons une approche transparente et globale pour pouvoir reviser ces preuves dans plusieurs milieux. On a des directives maintenant pour les décideurs et ceux qui élaborent les programmes que les interventions Go et Ready devraient être mise en œuvre tout simplement avec une bonne surveillance, un bon contrôle, et pour le ready, s'assurer qu'il y a une bonne part d'évaluation. Mais pour le study, ce n'est pas tout à fait prêt, mais mérite quand même de la recherche. Alors voici l'ordre du jour pour les chercheurs à l'avenir. Maintenant, on a quelque chose pour la recherche. Nous avons une direction pour que les interventions study peuvent passer à l'étape ready ou do not go, n'avancez pas, et ceux, les ready qui sont prêts, les passer à l'étape go. Alors, pour conclure, nous avons des objectifs, nous avons de plus en plus de fonds, nous avons plus de clarté sur les interventions efficaces. Fini les prétextes en disant que nous n'allons pas le faire parce qu'il n'y a pas de preuves à l'appui. Je ne crois pas. Je crois qu'on a beaucoup de preuves à l'appui. On a besoin d'évaluations beaucoup plus fouillées, des interventions dites steady et ready, et beaucoup plus d'actions axées sur les données pour les interventions qui ont été classées go et ready. Merci beaucoup. Merci, Dick, pour ces réflexions sur les interventions efficaces. J'aimerais maintenant inviter un troisième panéliste, Henry Diombia, qui va nous parler de l'implication des jeunes vivant avec le VIH et SIDA. On parle souvent des gens qui vivent avec le SIDA et le VIH et leur niveau d'implication. Mais pour s'assurer que les interventions auprès des jeunes et que les jeunes qui vivent avec le SIDA-VIH sont impliqués, il faut vraiment bien comprendre le principe J1. Alors, c'est Henry qui va nous en parler. Merci beaucoup et bonjour. Ce matin, on m'a dit que je devais vous parler d'une plus grande intervention de la part des jeunes, ceux qui vivent avec le VIH-SIDA. Je n'ai pas de présentation PowerPoint à vous montrer. J'aimerais tout simplement avoir une discussion avec vous, une discussion interactive. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais souligner plusieurs choses. Nous voici maintenant 25 ans dans l'épidémie. Presque toutes les présentations jusqu'à date, depuis que nous sommes arrivés à Toronto, on aurait pu avoir avant. Mais le problème persiste. Les jeunes, même maintenant, en ce moment, sont affectés par le VIH. Il y en a qui continuent à mourir. Et c'est quoi le problème? Est-ce que c'est le temps maintenant de passer aux actes pour les gens qui sont victimes du virus? Et qu'en dites-vous des gens qui sont en train de mourir pendant que nous sommes ici à Toronto? C'est le temps de passer aux actes. J'ai trouvé que le thème était excellent pour la réunion de cette année. Mais le fait de se concentrer sur les jeunes, surtout les jeunes vivant avec le VIH-SIDA, je crois que le moment est venu. On a parlé de recherche qui est fonction de données solides, beaucoup d'interventions de la part des jeunes qui tentent de travailler avec les autres. Mais qu'est-ce qu'on fait après ce congrès? Et j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier la Force Jeunesse de Toronto et la Coalition Jeunesse Globale sur le VIH pour avoir aidé des jeunes de partout au monde de pouvoir venir à cette conférence. Comme quelqu'un avait dit auparavant, le Toronto Youth Force nous a permis d'amener 1000 jeunes des quatre coins du monde. À Durban, les jeunes qui étaient représentés à ce congrès dénombraient 50. Et à Barcelone, jusqu'à 200. Deux ans à Bangkok, la participation des jeunes était de 450. Alors nous sommes très heureux de voir que la représentation des jeunes est à peu près 1000 à ce congrès. Mais ce qu'ils nous font, c'est pas seulement la présence des jeunes qui viennent à ce congrès, mais qu'ils aient un impact et aussi lorsqu'on retourne chez nous, dans nos communautés, de soutenir cet impact. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas avoir accès à ce congrès. C'est quoi notre rôle quand on vient à ce congrès? On assiste aux séances, on retourne de chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui vivent avec le VIH? Alors, je vais débuter ma discussion pour vous expliquer c'est quoi vivre avec le VIH. Ça fait 4 ans maintenant que je vis avec le VIH. Et nous savons peut-être qu'il y a de la stigmatisation presque partout. Et bon nombre d'entre nous, on a parlé des principes de GIPA, une plus grande implication de la part des gens qui vivent avec le VIH. Si on met ça dans le contexte des jeunes, c'est quoi le rôle des jeunes dans les principes GIPA? Les jeunes femmes, les jeunes qui ont des relations sexuelles avec d'autres jeunes, les UDI, les travailleurs du sexe. Est-ce que le principe GIPA couvre toutes ces catégories de jeunes? Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse à ces questions, et de façon assez critique. Et lorsqu'on retourne dans nos communautés, on parle d'adolescents et la promotion de leur santé, il ne faudrait pas oublier la règle critique. Les jeunes qui travaillent, qui vivent avec... Le rôle critique joué par les jeunes qui vivent avec le VIH-SIDA. Premièrement, je vais vous parler d'accès. Avec le Toronto Youth Force, nous avons eu des messages clés. Un de ces messages, c'est l'accès. On a besoin de l'accès à l'information. Mais il y en a d'entre nous qui nous détenons déjà l'information, mais on se fait infecter quand même. Il y en a qui suivent des traitements, mais il y a aussi des cas de surinfection. Et parfois, dans nos pays, nous avons les ressources, nous avons les médicaments. Mais il y a des gens qui meurent encore dans des milieux à faible ressource. Il faut dire la vérité. Il faut qu'on parle de sexe et de sexualité et d'adolescents qui vivent avec le VIH. Et puis les sous, on a besoin des dollars. Les jeunes, on pourrait jouer un rôle clé en travaillant avec d'autres partenaires pour garantir un monde sans sida. Les droits de l'homme. Stigmatisation, discrimination. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'éducation au collège à cause de leur état de santé, parce qu'ils sont sidéens. Il y en a d'autres qui sont refusés du travail pour les mêmes raisons. Et je sais qu'au cours des prochaines séances, évidemment, on a entendu ceci dans toutes les séances jusqu'à date. Mais où est le problème? On vient ici, on assiste à ces congrès pour trouver des solutions. On a vu des endroits où les choses fonctionnent. Quelles sont les leçons à retirer? Quelles sont les pratiques exemplaires qu'on peut déployer dans nos communautés? Moi, je viens de l'Ouganda, où je suis cofondateur de Ugandan Positive, séropositif de l'Ouganda. Une fois qu'on était le hôte de la conférence des gens qui vivent avec le VIH, SIDA, en 2003. Pour moi, c'était un grand pas que d'avoir des jeunes avec le séropositif qui militaient pour nos droits. Mais ce n'est pas suffisant. On a besoin d'accès, accès au traitement, accès à l'information. Il faut qu'on soit plus impliqué dans la communauté et s'attaquer aux questions de prévention. Je vais parler également de la stigmatisation. C'est un énorme enjeu. Si on veut avoir une implication accrue de la part des jeunes qui vivent avec le VIH, la stigmatisation nous a touchés de plusieurs façons. Nous savons peut-être que la stigmatisation nous empêche de divulguer notre état. Et ainsi, l'épidémie continue à se propager. Alors, quel est notre rôle en tant que jeunes? Premièrement, il faut éviter la réinfection de nous-mêmes et des autres. il faut être critique quand on fait de la prévention. Et aussi le militantisme, pour militer pour les soins et le traitement. L'éducation. Dans une des séances, plutôt ce matin, quelqu'un avait mentionné d'être conscient du problème. Alors nous voici 25 ans plus tard, et bon nombre d'entre nous ont tous entendu parler du VIH. Et malgré tout, il y a encore des fausses idées. Quel est notre rôle lorsqu'on retourne dans nos communautés et lorsqu'on travaille avec les jeunes? Si c'est de la recherche, si c'est l'élaboration de programmes pour les jeunes, comment on fait pour impliquer ces jeunes? Est-ce que les jeunes sont impliqués dans l'élaboration de ces programmes, dans la prise de décision et aussi dans le monitoring et l'évaluation? Certains d'entre nous, voudrait que on ne veut pas être opportuniste, on ne veut pas tout simplement venir ici à Toronto et rentrer chez nous. Nous sommes des joueurs essentiels. Je ne parle pas des nouvelles infections, comment on éviter la surinfection. Mais ceci est très sérieux parce que il y en a d'entre nous qui n'ont pas l'information. Et lorsqu'on retourne chez nous, il y en a qui vont encore penser que le VIH n'existe pas ou qu'il y a un remède ou qu'on peut être guéri si on couche avec une vierge. Et ça, c'est un énorme problème. Alors, c'est quand le moment de passer aux actes? Quand est-ce qu'allons-nous passer aux actes pour éliminer ces fausses idées, 25 ans après? Si nous voulons avoir des bonnes stratégies de prévention, de soins, d'appui, où se trouvent les jeunes qui vivent avec le VIH? 14 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Il y en a qui pensent que ces statistiques sont faussées, mais pour moi, c'est un commentaire personnel, je crois que même ce chiffre-là pourrait être plus grand, parce que beaucoup d'entre nous sommes ignorants de notre état. Alors, il y a une statistique qui peut toujours capturer, et ça, c'est un problème. On peut peut-être, savoir que VIH, c'est une drôle de maladie, on peut l'attraper aujourd'hui, et on vit quand même un bout de temps. Et, entre-temps, vous êtes peut-être en train de transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est typique et terrible. Alors, quel est le rôle? Quel rôle pouvons-nous jouer? Quel rôle critique pouvons-nous jouer pour combler ces lacunes, les gouffres parfois, et aussi pour s'impliquer dans le militantisme, pour les soins, le traitement et la prévention? Le sexe. Tout un enjeu. Il y en a. Dans les sociétés, on voit les jeunes, mais on se dit qu'ils ne devraient pas avoir de relations sexuelles. Même si le sexe est très important, la façon dont nous avons des relations sexuelles est plus importante. Alors, moi, je dirais que si un jeune qui vit avec le VIH, il y a un choix à faire. Si on choisit une relation sexuelle, mais qu'on se protège. Et pour les autres jeunes, il faut leur donner un accès ou tout simplement une information gratuite. On a passé du A, B, C et du A à Z. Mais donnez-nous les condoms si on veut les utiliser. Et pour vous, les jeunes, c'est pas juste condoms, c'est une bonne utilisation, toujours. Et c'est très important dans quelques-unes de nos sociétés. Il y en a qui vont dire, je vais utiliser un condom aujourd'hui, mais pas la prochaine fois. Peut-être pour partenaire X, je vais utiliser un condom, mais pour l'autre, non. C'est un problème. Et un accès au counseling volontaire et au dépistage volontaire. quel est le rôle de ceux qui sont déjà séropositifs? Nous sommes des joueurs clés dans cette épidémie. Il faut partager nos anecdotes, nos expériences, se parler lors des réunions pour pouvoir aller rejoindre les communautés, mais ce n'est pas suffisant.
Nous voyons toujours des gens qui meurent dans nos communautés. Comment pouvons-nous transférer les connaissances, les leçons que nous avons apprises et entreprendre des actions significatives? C'est la raison pour laquelle on a une discussion sur la promotion de la santé. Dans d'autres discussions, nous avons eu, lorsqu'on regarde un adolescent qui vit avec le VIH et est né même avec le VIH, notre rôle principal, c'est d'éviter le VIH. Mais cet enfant est né avec le VIH. Alors, la stratégie ABC, est-ce qu'elle aide cette personne? Alors, que devons-nous faire pour s'assurer que cette personne ne développe pas le sida? Est-ce qu'il faut travailler sur la prévention du sida, étant donné que la prévention du VIH est impensable, est impossible? Alors, quel est notre rôle à ce moment-là? En résumé, j'aimerais insister sur le fait que l'implication des jeunes dans les programmes traitant du VIH, surtout les jeunes qui vivent avec le VIH, est essentielle pour réagir à l'épidémie. Et nous avons entendu des informations de la part de Dick et peut-être que dans d'autres sessions de la conférence, mais si nous n'avons pas accès, si nous n'avons pas l'information vraie sur la réalité, si on n'a pas le financement, on a besoin de dollars pour financer des programmes. Et souvenez-vous, les jeunes, nous sommes la clé dans la réponse à l'épidémie. Les données ont montré que lorsqu'on travaille avec les jeunes, on peut accomplir beaucoup. Et ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont venus à Toronto pour défendre nos points de vue, mais nous devons travailler avec d'autres partenaires. Et n'oublions pas que, essentiellement, les principes JIPA, l'implication supplémentaire des jeunes qui vivent avec le VIH, peuvent nous aider à livrer la marchandise. En résumé, quel est le mot de la fin? Ce que je vous laisserai comme message, c'est qu'il faut transférer les connaissances auprès de tous les médias que l'on peut utiliser, à travers des ateliers qui se tiennent dans la communauté. Et le rôle des médias est très important pour rapporter correctement sur ce que les jeunes font et leur point de vue. Et ensuite, les rôles personnels. Quel est notre rôle individuellement? Lorsque l'on retourne dans nos communautés pour faire rapport sur les jeunes, comment partager les connaissances? Nous avons déjà eu des jeunes. On a vu qu'il y aura deux fois plus de jeunes à la prochaine conférence sur le sida à Mexico. Devrions-nous venir à ces conférences? Nous devrions-nous aller à Mexico? Si on a les fonds, la technologie, notre objectif est de prévenir les nouvelles infections et aussi le soin et le soutien pour ceux qui vivent déjà avec le VIH. Donc, en résumé, réfléchissons sur notre rôle personnel. Quel est notre rôle pour essayer de renverser l'épidémie? N'oublions pas que les enfants, lorsque nous grandissons vers l'adolescence et avant d'être rendus à l'âge adulte, quel est notre rôle dans cette période? Et comment pouvons-nous travailler avec les jeunes, avec nos partenaires, pour prévenir le VIH? Alors, merci de votre attention. Merci, Henri. Si vous avez des questions pour un de nos panélistes, vous pouvez les poser.
Number
three. Micro numéro 3. Oui, merci. Mon nom est Aisha Molana. Je suis une bénévole au Kenya. Merci à tous les panélistes. C'était une très bonne présentation. J'ai une question pour Bruce Dick. Ma question est, vous n'avez pas eu le temps de décrire les interventions structurelles et j'aimerais que vous nous parliez davantage des interventions structurelles. Bruce. Ah, vous voulez que je réponde tout de suite? Alors, d'accord. Voici les interventions qui traitent des facteurs sous-jacents qui ont été si souvent mentionnés dans la conférence, qui sous-tendent cette maladie. Donc, il y a des interventions pour essayer de régler la pauvreté, pour régler le manque d'éducation, surtout l'éducation des filles, des interventions pour régler la discrimination, pas seulement des gens qui vivent avec le VIH, mais la discrimination et la marginalisation qui existent pour plusieurs des groupes qui sont au centre de la transmission. Donc, je parle des fois qu'on les appelle des interventions en amont, on les appelle différemment, des interventions environnementales. Mais ce sont les interventions qui font en sorte que c'est difficile pour les jeunes d'obtenir l'information et d'avoir accès aux services et d'avoir des occasions pour développer des compétences de vie. Micro numéro 2, mon nom est Colleen, je suis la rapporteure en chef pour CEDA 2006, j'ai un commentaire pour chaque conférencier. Henri, votre voix pendant la préconférence, la conférence principale, les forums, les discussions a été si inspirante. Et à mes yeux, je vais retourner et je vais parler à mes jeunes de ce que vous avez dit et quels sont vos problèmes. Et ils vont en parler parce que vous avez été une des voix les plus fortes ici et je vous félicite pour ça. Merci. Au docteur, je comprends bien qu'il va y avoir une version adaptée pour les jeunes de ce rapport. Est-ce exact? Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Non, tout à fait, tout à fait. Et en fait, nous avons eu un satellite. J'espère que vous avez tout rédigé, une déclaration au pavillon jeunesse, j'espère. Sinon, vous devriez vous rendre au pavillon jeunesse et rédiger une déclaration affirmant ce que vous allez faire pour les jeunes. Quoi qu'il en soit, après le satellite que nous avons eu il y a quelques soirées, les jeunes ont pris Joy Pimapi, qui est l'assistant directeur général de l'OMS dans ce domaine, et l'ont invité au pavillon jeunesse et ensemble, ils se sont engagés à développer une version adaptée aux jeunes. Parce que une des choses que Fricaccia, qui était aussi sur le podium, a dit très clairement, c'est que ça donne aux jeunes de l'information de fond très utile pour leur militantisme. C'est un outil très utile, mais sous sa forme actuelle, c'est peu digestible. Si vous l'avez lu, vous constatez que c'est conçu pour les chercheurs et pour communiquer le message aux politiciens et tout ça. Alors, je vous ai donné la réponse longue, la version longue. Maintenant, la réponse brève, c'est oui. Donc, pour le premier conférencier, je suis très d'accord. Lorsque l'on parle de l'éducation aux jeunes, c'est une information qui n'est pas utile pour aborder le VIH. Je travaille avec les jeunes depuis un an et demi et il y a très peu de soutien. Et je serais très heureux d'obtenir votre information de contact pour lui communiquer. Il a raconté son histoire de façon anonyme à une publication qui s'appelle Bullevines Magazine. C'est le périodique a été perdu dans le déplacement, mais vous pouvez visiter www.red-dash.org et vous allez voir de quoi elle parle. Et je voudrais avoir vos coordonnées pour que vous puissiez communiquer avec lui parce que vous êtes vraiment un modèle pour lui. Ce monsieur, maintenant le micro numéro 1. Mabadigeya, je représente une organisation de cinquième ligne, l'Organisation islamique du Nigeria. Le VIH-SIDA est rendu une maladie chronique surtout prévalente dans les milieux plus pauvres, les pays plus pauvres. Et ce que je souhaite, c'est que c'est une maladie de la pauvreté et de l'ignorance. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'on se joigne ensemble pour s'assurer que les pays en voie de développement aient les ressources. Pourquoi dis-je cela? Les pays développés disent qu'ils ont dépensé 0,7% de leur budget annuel sur la lutte au sida. Mais à partir d'aujourd'hui, seulement une poignée de ces pays ont atteint cet objectif. Mon défi et mon vœu est que nous ici, qui avons les contacts, essayons de convaincre les pays développés d'augmenter leur budget pour l'aide aux pays en voie de développement, pour monter aux 2 à 3 % recommandés par le Saint-Coran. Si on fait ça, les jeunes vont avoir des emplois. J'ai appris que et que des mains qui ne travaillent pas, c'est le l'atelier du diable. Alors, les jeunes, le problème, la raison pour laquelle ils développent le sida, c'est qu'ils n'ont pas d'activité significative. Alors, si on peut les garder sur la ferme ou développer leur intelligence, vous allez découvrir que la prévalence du sida va diminuer. Ici, les femmes qui sont obligées de ont suffisamment de fonds, elles ne succomberont pas aux avances par les hommes plus âgés et les gens qui sont dans une position de les tenir otages. Alors, c'est mon souhait, mesdames et messieurs. Alors, est-ce d'autres questions? Oui, merci, Marge Berry. Soyez bref, s'il vous plaît. Pouvez-vous être bref, s'il vous plaît? Je vais essayer. Je veux appuyer le premier conférencier lorsqu'il a parlé de l'importance de la reconnaissance que nous sommes tous des êtres sexuels, peu importe notre état, notre séropositivité et le cœur, la solution de l'épidémie, c'est l'attention au sécurisexe et en faire une norme sociale pour tout le monde, peu importe notre état, notre statut. Et il me semble que le message ABC a sabotagé ça en essayant de le réduire à quelque chose de trop simple, plus simple qu'il ne l'est en réalité, et que le comportement sexuel est beaucoup plus complexe et nous avons besoin, dans cette conférence à l'avenir, de lui donner plus d'attention. L'utilisation des condoms, par exemple, n'est presque plus discutée dans la conférence, dans la pérennière sur la conférence. Ça n'a pas été dans la présentation d'un expert sur l'utilisation des condoms. Et moi, j'avais publié un article énorme. J'ai été inondé de commentaires qui montrent que les jeunes prennent des chances avec leur vie, que l'augmentation des condoms augmente, même parmi les plus pauvres des jeunes, ça augmente partout à travers le monde. Et cette réussite que les jeunes ont réalisée eux-mêmes avec le sécurisec et avec l'élimination des grossesses non souhaitées en utilisant les condoms et la contraception d'urgence lorsqu'ils sont préoccupés parce qu'ils ont oublié un condom une journée, et cette réussite n'est mentionnée nulle part. Alors, j'aimerais qu'on en parle beaucoup plus dans les médias. Merci. Prochain micro, est-ce que vous m'entendez? Mon nom est Laura Teclet. Je suis une journaliste à la Pige et une enseignante dans une population à risque aux États-Unis. Ma question s'adresse à Bruce. Dans quelle mesure peut les conclusions de Steady Ready Go peuvent-elles être étendues dans la discussion aux États-Unis et dans les autres soi-disant pays en développement? Vous savez, le financement des programmes de prévention dans les écoles aux États-Unis est devenu un problème majeur et un sujet très chaud au niveau politique. Ma deuxième question, c'est, est-ce que ça importe? Est-ce que le risque perçu relatif du groupe dans les nations développées, est-ce que ça a de l'importance au niveau de la programmation des programmes de prévention? J'affirmerai que nous avons décidé de nous concentrer exclusivement sur les pays en développement parce que, honnêtement, vous avez énormément de recherches aux États-Unis et passablement de recherches dans d'autres soi-disant pays développés sur les interventions dont on parle. Si on imagine les interventions à l'école, vous avez Doug Kirby ici qui a rédigé le mémoire, le chapitre dans une publication, mais il a fait énormément de recherches dans notre pays. Mais c'est une question intéressante malgré tout et c'est une question qui, dans la conférence de presse hier que nous avons eue sur le sujet, un des journalistes a posé la question à Judy Halbach qui était présente, qui était une des vice-présidentes d'AMFAR, et elle a dit que la chose la plus utile pour elle au sujet de cette publication par rapport aux États-Unis, c'est d'être capable de la présenter aux gens qui fournissent de l'aide aux autres pays de la part des États-Unis, et on découvre ça dans les pays en développement, que ça donne des normes, des lignes directrices très claires pour eux sur le genre d'intervention qu'ils devraient soutenir et qu'il y a des données probantes à cet effet. Et ce ne sont pas simplement des valeurs morales et des avis qui sont imposés. Merci. Numéro 3. Bonjour, mon nom est Kate Yopenda, je suis du Royaume-Uni, je travaille avec VSO et je voulais dire que leur rapport donne une merveilleuse occasion, comme vous l'avez dit, de communiquer des messages clairs aux organisations sur ce qu'ils doivent faire et ce qui fonctionne. Mais ce matin, dans la plénière, on a eu d'une fille canadienne de 13 ans qui est à l'école et qui ne reçoit pas d'éducation sexuelle. Et je sais qu'au Royaume-Uni, c'est la réalité aussi. Et j'aimerais savoir, Bruce, quels sont vos commentaires sur les barrières pour les pays développés? Ça paraît encore pire. Et si on ne peut pas réussir au Canada et aux États-Unis, comment peut-on s'attendre à ce que les pays avec des ressources limitées prennent les messages et en fassent une réalité pour les jeunes dans le monde en développement? Micro numéro 2. Non, c'est une excellente question et je n'ai pas de réponse simple du tout. Et en fait, il y a eu une revue très bonne faite par Action Aid et plusieurs autres organisations au Royaume-Uni. Et il y avait un titre très accrocheur qui m'échappe à ce moment, mais qui illustre que, bon, on le dit depuis longtemps, en fait, qu'on a besoin d'éducation sexuelle basée sur les compétences à l'école. On utilise les données venant des pays développés et des pays en voie de développement aussi, mais ça ne se fait pas pour plusieurs raisons. Maintenant, les données, ça, c'est seulement une des choses qui va permettre les choses d'aller de l'avant. Il y a des écoles qui ont des difficultés dans les pays en voie de développement, c'est très difficile, mais il faudrait au moins connaître quels devraient être nos objectifs. Et j'aimerais dire qu'il faut que ce soit très clair que de fournir un cours sur le tractus reproducteur d'un poisson n'aidera pas les jeunes à développer des relations sexuelles saines. Donc, nous savons ce que nous devons viser et nous savons que nous avons des données, mais on a besoin à un certain niveau d'avoir une volonté politique plus forte. Et je sais que ça manque gravement dans plusieurs pays, pas seulement ici, mais ailleurs. Et on a besoin de financement aussi. Et on a besoin de financement pour ces programmes autant, sinon plus. Et c'était intéressant hier lorsque Kevin DeCock animait la plénière et il a mentionné que nous n'allions pas nous traiter. C'est pas le traitement qui va nous sortir de l'épidémie. À moins de ne se concentrer dans la prévention, on va avoir de gros problèmes. Alors on a besoin de financer la prévention aussi. Et c'est pas par contre aussi sexy que d'autres domaines financés. Alors, je n'ai pas de réponse simple, mais au moins nous avons des données probantes et au moins nous savons ce que nous devrions viser lorsque nous développons des interventions dans les écoles et les services de santé à travers les médias, etc. Micro numéro 2. Bonjour, mon nom est Georgina McDougall. Je suis une infirmière à l'hôpital pour enfants et j'aimerais vous remercier pour avoir soulevé le point. qu'il y a un gouffre énorme au niveau des adolescents. Nous traitons des enfants et dans la transition vers la vie adulte, il y a un gouffre énorme. Moi, je sais que je travaille dans un environnement très riche en ressources. Donc, j'ai le luxe de pouvoir faire beaucoup des choses dont vous parlez. La divulgation, parler avec les adolescents sur comment divulguer à leurs partenaires. Des réunions avec des adolescents pour discuter de problèmes. Et aussi, les jeunes ont de la difficulté à entendre le message à l'école. Vous ne voulez pas avoir le VIH, mais entendre leur père faire de la discrimination. « Oh, je voudrais pas être ami de quelqu'un qui a le VIH » et ils transportent malgré tout ce fardeau avec eux. Alors, on les aide à essayer de régler ces problèmes. J'aimerais en profiter parce que je n'ai pas toutes les réponses sur les soins aux ados, mais si quelqu'un veut m'aider à partir en réseau, je serais très heureuse d'échanger nos informations de contact, et j'espère que d'ici 2008, les problèmes des adolescents, de même que les problèmes de l'enfance en général, soient mieux couverts par le prochain forum. Merci. Je crois que c'est très important. Et hier, je ne sais pas si vous y avez assisté, il y a eu une session très intéressante intitulée « Fournir du soin, du soutien et du traitement aux enfants et aux adolescents », quelque chose comme ça. Et les adolescents, je crois, ont été mentionnés une fois comme étant un groupe qui mérite de l'attention. Tout le reste de l'attention portait sur les enfants. Alors, je suis d'accord avec vous et je voulais le dire aussi que j'espère qu'à Mexico, nous allons pouvoir traiter de cette question de façon plus importante et qu'au moins, on va démarrer lors de la rencontre de novembre pour être plus clair ce que l'on peut faire pour donner du soin, du soutien et de la prévention pour les jeunes qui vivent avec le VIH et le SIDA. Et pour ces deux groupes, ceux qui vont être infectés dans la petite enfance et ceux aussi qui vont être infectés pendant l'adolescence. Le micro numéro 3. Merci. Je suis une pédiatricienne qui s'occupe d'adolescents avec le VIH dans un pays en voie de développement, l'Ouganda. J'aimerais remercier tous les panélistes, mais je veux dire une chose, que les adolescents qui vivent avec le VIH ont besoin de recevoir du soutien pour qu'ils respectent leur thérapie. L'on parle de la prévention, la prévention des grossesses non désirées, la prévention des maladies transmises sexuellement, mais on ne parle pas de prévention de la transmission de virus résistants. On leur donne de la thérapie de première ligne, mais on leur donne pas un soutien pour qu'ils respectent leur thérapie de première ligne. Éventuellement, ils vont oublier leur thérapie et il n'y aura plus d'autres options. Leur thérapie va échouer. Alors, je veux encourager les gens des pays faibles en ressources des programmes pour les jeunes, ça ne devrait pas être un ennemi. Avec le peu de ressources que l'on a, on peut quand même commencer à petite échelle, mais bien le faire et avancer. Numéro 2. Bonjour, mon nom est Mary Turcot de Dartmouth Medical School aux États-Unis. Je suis affiliée avec un projet par et pour les jeunes dans l'Afrique subsaharienne, dans 4 pays qui utilisent le sport pour le développement. Ça s'appelle football de la base. Et un des avantages que nous avons eu, c'est de pouvoir recevoir du financement pour faire de l'évaluation, pour obtenir des données sur l'efficacité de nos projets et aussi pour publier ces données dans le périodique AIDS and Behavior. Notre problème, par contre, c'est que d'obtenir le financement pour faire les recherches, pour obtenir les données, nuit. On a dû travailler très fort pour obtenir une petite subvention de la Fondation Gates. Ça a coûté aussi cher que notre intervention. Alors, ce qui me préoccupe, et c'est pour vous, Dr. Dick, c'est votre rapport a-t-il discuté comment on va obtenir le financement pour obtenir les données? Et sinon, d'où ça va venir? Et si ça n'est pas disponible, votre rapport va-t-il nuire à ceux d'entre nous qui veulent faire de la médecine basée sur les données probantes? Mais si on n'a pas l'argent, on ne peut pas prouver que nos projets fonctionnent. Alors, d'où va venir le financement pour cette recherche? Eh bien, j'espère que la réponse à votre dernière question, c'est non. Je crois que une des choses qu'on a réussi à faire, avec notre rapport, c'est d'identifier des projets de recherche clairs dans les domaines dont vous parlez. Et à la conférence de presse, la question du sport a été soulevée par quelques-uns des intervenants. Gary Barker, qui anime une session à ce moment-ci, a fait une très bonne évaluation de certaines interventions s'appuyant sur les sports en Amérique latine. Et maintenant, nous devons nous réunir et nous devons aller voir les gens qui financent la recherche pour leur dire il y a des données probantes et nous devons aller de l'avant et on veut de l'argent pour des interventions. Et il y a des questions de recherche ici qu'on a clairement identifiées dans le rapport et on doit obtenir des réponses pour ces questions, comme on a besoin de réponses pour les questions sur les vaccins, les microbicides, les traitements et tout le reste. Donc, je pense on n'obtiendra pas des fonds en simplement s'assoyant et en attendant, comme vous l'avez découvert, mais on doit se mobiliser pour aller chercher des fonds importants pour soutenir ce genre de recherche et pour répondre aux questions qui méritent réponse. Alors, c'est un très bon point et malheureusement, je n'ai pas de réponse simple, mais c'est un très bon point à avoir soulevé. Merci. Pour répondre à ce commentaire, pour ajouter à ce que Deka dit, à Trinidad et Tobago, nous, les jeunes, avons démarré un projet très sérieux. On a analysé notre budget national et les politiques jeunesse et les politiques sur le VIH-SIDA qui ont été conçues pour une période de 5 à 10 ans. Et on a découvert qu'il y a quelque chose de commun pour toutes les Caraïbes, de même que pour les nations en développement. Il y a du financement alloué par le Fonds mondial pour traiter de sujets jeunesse et ciblant les jeunes et la recherche qui est nécessaire pour étudier et développer ces interventions comme réponse possible. Si vous regardez les plans nationaux pays par pays pour le rendre plus adapté à votre région, c'est une solution. Ça a fonctionné pour nous à ce jour. Merci. Nous avons presque terminé. Nous allons prendre encore 3 interventions. Micro 3, s'il vous plaît. Bonjour. Mon nom est Braha Shapiro et je suis une jeune du Canada. Je voulais vous féliciter pour de merveilleuses présentations. Ça a été très intéressant. J'avais quelques questions. Pour Bruce, l'ONU et d'autres organisations internationales essaient de trouver des données et de faire des recommandations pour la mise en œuvre de programmes. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un problème en termes d'un manque de sensibilité culturelle lorsqu'on regarde où ces études se font et qui les évalue et qui les conçoit. Lorsque l'on parle de leur mise en œuvre dans des pays en voie de développement où la situation est très différente. Par exemple, j'ai visité le Kenya et je travaillais dans un centre jeunesse et on voit là-bas qu'il y a un gouffre de génération énorme. Donc, vous avez de l'argent qui est alloué pour l'éducation des jeunes et un centre de jeunesse. Et ensuite, il y a des gens plus âgés qui ne comprennent pas le message et ne peuvent pas livrer le message correctement à ces jeunes qu'ils sont censés aider. Donc, il y a eu beaucoup de discussions pour lever de bouclier pour les jeunes, etc. Mais dans les pays aux ressources limitées où les médias sont si jeunes et il y a beaucoup de nouvelles influences externes, les idéologies des jeunes comparées à leurs enseignants ou leurs parents est si différente. Donc, je pense que c'est très important d'insister sur ce que les jeunes peuvent faire pour d'autres jeunes. Et on peut communiquer entre nous et nous donner du soutien. Et je pense que souvent, les fonds qui sont alloués disent, bon, ben ça va être pour de l'éducation par les pairs. Ici, si dans un endroit faible en ressources, vous avez l'argent qui entre dans le centre jeunesse ou les quelques adultes qui gèrent le centre et les ressources ne se rendent pas à la base et ça se termine là. Et le chef du centre jeunesse a une très belle voiture, mais ces jeunes ont le VIH. Donc, je me demande, quelle est votre impression à ce sujet? Donc, ce problème est multigénérationnel. Et malheureusement, je ne connais pas votre nom, le 3e conférencier. Je veux vous féliciter. C'était vraiment fantastique de vous entendre. Et ce que vous faites, c'est si important parce que plusieurs jeunes ne comprennent pas qu'il y a d'autres jeunes qui ont le VIH-SIDA et ils pensent que c'est cette maladie épouvantable et tout le monde essaie de leur faire peur. Ils ne comprennent pas qu'il y a quelque chose de positif qui peut arriver après. Et si les gens ne voient pas d'autres gens vivre de façon positive avec le VIH, ils ne se feront pas dépister parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de vie après le diagnostic. Donc, ce que vous faites est si important. Merci. Micro numéro 2, s'il vous plaît. Et je pense que ça va être la dernière question. D'accord, merci. Je travaille au Kenya et je suis frappé du fait que tous nos conférenciers, mis à part la présidente, sont de jeunes hommes ou des hommes. Et en Afrique subsaharienne, le VIH, dans certains pays, les jeunes femmes sont 3 fois plus à risque. Donc, c'est un commentaire. Mais je vous félicite quand même de nous avoir parlé. Je pense qu'à l'avenir, j'aimerais aussi entendre la voix de jeunes femmes à part égale. Et une question maintenant pour vous sur, vous nous avez mis au défi de rendre, d'adapter nos services aux adolescents séropositifs. Et j'aimerais donc poser une question sur quelle est votre perception du débat sur le dépistage et le droit de refus et des avis sur qui devrait avoir l'information si un adolescent de moins de 18 ans était testé? Est-ce que leurs parents ou leur tuteur devrait-il avoir le droit d'obtenir les résultats? Avez-vous des commentaires?
Je pense que le conseil volontaire et le test est essentiel pour répondre à l'épidémie. C'est un point d'entrée pour la prévention, mais dans de nos environnements, et ils facturent des frais pour le test en Africa, les centres de services ne sont pas à proximité des lieux de vie des jeunes, donc c'est un problème. Cependant, le VCT, les conseils volontaires et les tests sont essentiels pour la prévention, mais il faut du soutien, bien sûr. Une brève question. Lorsque j'ai écouté la jeune fille, cela m'a rappelé qu'il y a de nombreux aspects spécifiques de la sexualité adolescente et comment elle diffère de la sexualité adulte. Est-ce que l'ensemble des conférenciers ont des idées sur la façon dont la compréhension de ces différences peut promouvoir la promotion de la santé et d'une sexualité saine? Tout d'abord, les questions sur le test. Qui est privilégié suffisamment pour avoir de l'information, l'aide sur les tests? D'abord, ce n'est pas une réponse facile. S'il est difficile pour une jeune personne d'avoir de l'information appropriée pour gérer sa sexualité, je ne pense pas qu'il n'existera pas les mêmes problèmes sur les questions, sur les inquiétudes par rapport aux tests. Bien sûr, à la maison, tout le monde peut obtenir de l'information, mais c'est si vous vivez dans un foyer où toutes les membres de la famille ne sont pas forcément équipés pour gérer l'information. Je ne sais pas si, en termes de compréhension de la façon la sexualité adolescente peut affecter la qualité des soins, examinez le fait que si vous avez besoin d'examiner, comme Dick l'a dit, on ne va pas. Si vous avez besoin de comprendre le besoin de la sexualité des adolescents, vous devez avoir la formation récente. Vous devez comprendre comment les adolescents sont différents biologiquement des adultes. Mais il y a des différences, bien sûr. Et c'est la même chose pour les questions sociales. Il y a les sessions, les sociétés, on ne peut pas être adolescent, acheter un condom et aller vous amuser parce que les parents vont être appelés. Il y a des familles où il n'y a pas de débat sur les questions sexuelles, les orientations sexuelles. Si l'on fait juste du vernis sur les questions de sexualité adolescente, sans examiner les différences. Merci. 2 minutes supplémentaires. Je viens du Mozambique. Isabelle de la Mozambique, j'ai une question pour la personne de l'Ouganda. J'aimerais que comment vous disséminez les droits des personnes, les gens qui vivent avec le SIDA. Dans mon voisinage, nous avons adopté ce que nous appelons. Nous faisons le travail, nous le disons, nous le voulons. C'est notre approche. Les gens qui vivent avec le VIH appartiennent à des organisations de différentes communautés. Nous avons rassemblé nos politiques nationales et nous avons examiné en termes de jeunesse et nous avons développé un document politique, mais nous avons aussi décrit les aspects financiers. Nous avons aussi un travail de promotion. Nous allons au Parlement pour voir les ministres. Nous allons aux conférences médicales. Si nous voulons comprendre ce qui est dit. Et nous comprenons comment gérer les questions techniques. Et nous, on ne veut pas uniquement les jeunes à la table. Nous voulons manger à la même table et au même moment. Nous, vraiment, une inclusion totale et nous voulons un engagement égal, bilatéral, à tout moment. Merci beaucoup pour votre contribution et la participation. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez rencontrer les panélistes après. Nous voulons conclure simplement. Lorsque vous allez retourner dans vos communautés, réfléchissez sur comment vous allez travailler avec la jeunesse, comment nous pouvons promouvoir la santé et la sexualité des adolescents nés avec le VIH. Il ne s'agit pas de penser uniquement à ceux qui sont séronégatifs. Et comment nous allons gérer la transition enfant-adolescent vivant avec le VIH et quelle est l'importance de la promotion de la santé et de la sexualité des adolescents vivant avec le VIH. Merci.